Donc, deuxième partie de l'après-midi. Dans un premier temps, nous allons découvrir une expérience intéressante d'un dispositif soins-études qui nous est proposé par la clinique Dupré. Et je vous présente les intervenants dans quelques instants. Et juste après, ce sera le parcours dans le temps avec le passage de la minorité à l'âge adulte. Et on sait que ça pose un certain nombre de problèmes à de nombreux niveaux. Et c'est le professeur Manuel Bouvard, chef de pôle de psychiatrie infanto-juvénile de Charles Perrins, qui œuvrera à ce moment-là. Mais pour l'instant, venons-en à l'articulation de l'enseignement et famille pour la prise en charge des adolescents en psychiatrie avec nos intervenants que je voudrais vous présenter. Blandine Charel, qui est directeur de la clinique Dupré à Sceaux. Jérôme Daïdé, qui est proviseur adjoint, directeur des études au centre médical et pédagogique de Neumoutier en Brie. Et Nathalie Godard, qui est professeure des universités, praticien hospitalier de la FSEF, de l'UFR des sciences de la santé, Simone Veil. Voilà, la présentation est complète. Vous avez chacun 10 minutes pour nous expliquer comment, effectivement, on a mis en place notamment ce dispositif soins-études et de quelle manière il fonctionne. Je crois qu'il va intéresser beaucoup de nos participants.
Oui, donc ce n'est pas seulement la clinique Dupré que nous allons vous présenter tous les trois, mais la Fondation Santé des étudiants de France, qui a été finalement présentée par d'autres collègues et d'autres intervenants pour la matinée du début d'après-midi. Et donc nous allons intervenir à trois voix pour essayer de vous présenter un dispositif intégré de soins et d'études en psychiatrie pour adolescents et jeunes adultes qui est relativement original, du moins par son importance sur le territoire. Alors, quelques mots d'abord sur la Fondation Santé. Alors, attends, c'est lequel, c'est sûr. Voilà. Quelques mots sur la Fondation Santé des étudiants de France. Nous sommes une fondation. Alors, nous sommes du privé, puisque nous sommes une fondation, mais nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique, financée exactement comme un hôpital public, donc un privé à but non lucratif, j'insiste, compte tenu des références qui ont été données ce matin. À l'origine, il s'agissait pour des patients tuberculeux de pouvoir poursuivre leurs études dans des lieux de soins, les sanatoriums, qui mettaient en place des soins non seulement très longs, mais à distance des sites universitaires. Et donc, il s'agissait d'éviter que le soin de longue durée n'entraîne une rupture quasi définitive des ambitions universitaires et des parcours professionnels. Aujourd'hui, nous sommes 25 établissements sanitaires et médico-sociaux. Nous représentons sur le territoire, implantés sur l'ensemble, à peu près dans de nombreuses régions du territoire. Nous représentons à peu près 2500 salariés, 320 personnels de l'éducation nationale et 1700 lits et places, pour vous donner un petit peu une volumétrie. Et voilà, alors, au milieu, il devrait y avoir une carte de France. Elle n'est pas très lisible sur le diaporama. En tout cas, à ce jour, nous sommes 10 établissements. Ayant de la psychiatrie au sein des établissements sanitaires, ayant une activité de psychiatrie au sein de la Fondation Santé étudiants de France, bientôt 11, et donc pour l'activité psy, 748 lits et places. Je vais vous dire deux mots en particulier de la clinique Dupré, dont j'assume la direction depuis 13 ans. On est un établissement à vocation régional. Nous ne sommes pas sectorisés. Le département 92, puisque nous sommes implantés sur l'extrême sud du 92, notre département d'implantation ne représente qu'un tiers de nos hospitalisations. Nous recevons des adolescents et jeunes adultes à partir de 16 ans, puisque nous sommes pour l'hospit, puisque nous sommes en agrément de psychiatrie générale. Et donc, l'originalité de notre établissement, c'est d'avoir un dispositif d'études, donc d'éducation nationale intégrée, puisque nous disposons au sein même de la clinique d'une annexe du lycée La Canale, dans laquelle nos patients sont scolarisés par une trentaine de professeurs de l'éducation nationale. Au niveau des pathologies, établissement psychiatrique assez classique en termes de pathologies, un gros quart de patients bipolaires ou présentant des dépressions sévères, un cinquième de patients schizophrènes ou autres troubles de nature psychotique, des états limites, des phobies, des TOC. Donc pas de grandes originalités du point de vue des diagnostics. J'insiste aussi sur le fait que nos patients ont des diagnostics relativement lourds, voire même très lourds, et que c'est ça qui fait l'important. Enfin, l'originalité peut-être aussi, c'est le dispositif soins à études pour des patients affectés de troubles psychiatriques avérés et lourds. Pour présenter en volumétrie du pré, 136 lits et places en hospitalisation soins études, également une unité post-aiguë qui n'est pas une unité de crise mais assez près de la crise, 14 lits, une activité ambulatoire qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Nous avons un relais qui est un service de consultation qui couvre une partie des missions des maisons des adolescents, puisque le relais intervient beaucoup sur le repérage précoce, un CTTP, un service de psychothérapie individuelle et une consultation équipe de liaison en addictologie. En hospitalisation, nous avons à peu près 34 000 journées par an pour une file active de 275 patients. Et en consultation, nous suivons plus d'un millier de patients par an pour à peu près 11 000 actes. Je voulais passer très vite sur cet aspect de présentation quantitatif de notre activité, d'autant plus que vous trouverez des éléments complémentaires et on est assez facile à trouver si vous voulez qu'on échange plus sur notre activité. Mais je voulais vraiment insister sur les trois questionnements qui sont pour moi assez essentiels dans ma fonction de directeur d'un établissement, alors je dirais de pédopsychiatrie, même si on est en agrément de psychiatrie générale à partir de 16 ans, mais je pense que sur le fonctionnement et sur l'esprit, en termes institutionnels, c'est bien de la pédopsychiatrie. Donc mes trois grandes préoccupations de directeur sont très en écho de ce que j'ai entendu ce matin, de savoir dans quelle mesure on peut être reconnu comme un investissement pour l'avenir, notamment au point de vue médico-économique et de la chronicisation des patients. Comment on doit adapter notre organisation et notre gouvernance à ce type d'institution, et quelle lecture avoir de la nécessité des durées de séjour et des taux d'occupation. Alors, je vais commencer par l'investissement sur l'avenir. Dans le cadre de la prise en charge soins études, nous avons donc des pathologies graves, mais à distance de la phase la plus aiguë. Donc nous devons mettre l'accent sur la réhabilitation des capacités sociales de nos patients, sur leur capacité d'apprentissage, de formation, d'insertion professionnelle, et nous devons de préserver la meilleure intégration possible. Il nous semble, et j'ai apprécié à sa juste valeur le clin d'œil du professeur Moreau ce matin, que les prises en charge que nous proposons sont reconnues et que leur pertinence n'est pas mise en cause. Pour autant, notre offre est clairement sous-dimensionnée, puisque nous recevons à peu près 300 dossiers complets par an de nos adresseurs qui nous connaissent et qui nous envoient donc de bonnes indications par rapport à ce qu'on peut offrir, et que pour 300 dossiers, nous avons à peu près 100 places par an qui se libèrent. Ça pose donc la question de savoir si ce type de dispositif doit ou non être déployé et doit être soutenu. Évidemment, pour moi, la réponse est évidemment oui. Les patients que nous prenons en charge, pour de très nombreux patients, vont éviter l'écueil de la chronicisation. Mais pour éviter cet écueil-là, ça implique quand même des moyens assez lourds et une prise en charge dans la durée. Quand j'entendais ce matin le sénateur Amiel parler de passer d'une approche comptable à une approche médico-économique, nous sommes évidemment convaincus à la Fondation Santé étudiante de France que nous devons avoir cette approche médico-économique de notre offre de soins, mais des institutions comme les nôtres ne sont pas en mesure de mener seules les études permettant de prouver l'intérêt à agir précocement ou à agir en profondeur sur le soin étude pour des patients, pour éviter le risque d'un coût social ultérieur extrêmement important. Et c'est vrai qu'on a parfois un sentiment un petit peu de solitude, d'essayer de... Alors, même si on a souvent des tutelles très bienveillantes et des partenaires qui comprennent les problématiques, mais on a quand même parfois un sentiment de solitude quand on est dans une approche économique traditionnelle par rapport à ce qu'on essaie de démontrer avec des moyens limités sur l'intérêt de ce genre d'investissement pour l'avenir. Voilà. Donc ça, il s'agit vraiment de ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation pour une institution de pédopsychiatrie est d'adapter notre organisation institutionnelle. Je parle de gouvernance et de management. Nous pratiquons le soin institutionnel. C'est plus forcément un mot qui est extrêmement à la mode, mais nous défendons ce modèle de soin institutionnel qui implique une cohérence forte pour éviter d'avoir en miroir un dysfonctionnement de l'institution qui serait le reflet du dysfonctionnement de nos adolescents et de certaines familles. Donc ça implique une gouvernance particulière avec une implication très très forte de nos médecins-chefs qui ne sont pas des experts du soin, mais qui sont impliqués de façon très étroite dans le pilotage de l'établissement. Et j'ai la faiblesse de penser que le fait d'avoir régulièrement tous nos postes médicaux pourvus, c'est le cas actuellement, n'est pas sans lien avec l'implication réelle qu'on leur permet dans cet outil. Et je pense qu'en pédopsychiatrie, on doit particulièrement réfléchir à cet aspect de la interne, de la gouvernance et du management pour impliquer fortement les équipes médicales et soignantes. Enfin, ma dernière préoccupation, c'est la lecture administrative versus la lecture médicale de nos indicateurs. Un séjour en soins études, c'est entre 1 et 2 ans. C'est une DMS adaptée qui correspond au projet individualisé d'un patient et qui ne se met pas en place, la durée de séjour ne se met pas en place par manque d'aval. Elle se met en place dès le départ parce que ça correspond au projet pour un patient. Évidemment, une hospitalisation longue pour éviter les effets iatrogènes implique aussi des retours fréquents à domicile pour éviter la désocialisation et la rupture avec la famille. Donc ça donne des durées de séjour plutôt longues et des taux d'activité plutôt sobres par rapport à certaines tendances actuelles. Et donc ça nous paraît aussi extrêmement important qu'on puisse accepter une lecture adaptée, une lecture médicale des indicateurs classiquement regardés par les directeurs, parce qu'une simple lecture de type PMSI, RTC, SAE ne peut pas nous permettre de comprendre le contenu, d'adapter le contenu et d'impliquer les équipes, voire les partenariats. Voilà, donc je voulais, avant de laisser la place à mes collègues, vraiment dire que ces trois préoccupations, l'investissement sur l'avenir, l'organisation interne et la lecture de ces indicateurs classiques qui nous contraignent, me paraissent aussi des éléments essentiels à devoir prendre en compte en pédopsychiatrie.
Merci Madame Charelle. Laissons la place à Jérôme Deidé, qui est proviseur adjoint, je vous rappelle, directeur des études du Centre médical et pédagogique pour adolescents à Neumoutier-en-Brie.
Merci. Bien, je vais donc juste changer le point de vue. Là, nous avions donc le point de vue de la directrice de la clinique Dupré. Et là, je vais décaler le point de vue maintenant du directeur des études, donc directeur de la partie des études, donc éducation nationale, au CERN donc de la fondation. Je remercie d'ailleurs les collègues qui ont... Donc, quand je dis collègues, c'est le collègue éducation nationale qui nous a fait un clin d'œil tout à l'heure en parlant de la fondation. Et qui a un petit peu décrit l'une de nos interventions. Le modèle soins-études permet de soigner le sujet et sa maladie dans sa globalité. C'est atypique. En proposant une prise en charge pédagogique adaptée, la scolarité peut devenir un élément positif supplémentaire dans le combat contre la maladie. Dans chaque clinique de la Fondation Santé des étudiants de France est intégré un service études. Ce service des études est rattaché comme annexe pédagogique, c'est ce qui a été dit précédemment, à un lycée de secteur. En l'occurrence, pour Neufmoutier-en-Brie, clinique dans laquelle je suis directeur des études, le lycée de support et le lycée Jacques Amyot de Melun. Et donc, cette annexe est dirigée par un directeur des études. Nous sommes conventionnés, la Fondation est conventionnée avec l'éducation nationale. Donc, une convention nationale a été signée entre notre président, M. Forestier, et Mme Vallaud-Belkacem, qui était ministre à ce moment-là de l'éducation nationale. Le public scolaire est constitué de patients hospitalisés dans les services de psychiatrie. Et sur Neufmoutier, nous avons également du somatique et également une double prise en charge somatopsie. L'objectif est d'associer très rapidement le soin et les études afin d'éviter une rupture scolaire prolongée et ainsi de garantir la continuité pédagogique. Donc c'est une adaptation constante. Il s'agit donc pour tous les enseignants d'adapter sans cesse, et vous verrez que le mot sans cesse n'est pas galvaudé, donc sans cesse les contenus de leur enseignement en proposant des outils innovants, motivants, afin de remettre les élèves en situation de collégien ou de lycéen et de le réhabituer à reprendre progressivement une scolarité et des exigences scolaires attenantes. Vous voyez le slogan, enfin j'espère qu'il est assez visible. Nous faisons du sur-mesure et non pas du prêt-à-porter. Et là, vraiment, au sein de nos cours, même dans les classes normées, chaque patient élève en l'occurrence, a un parcours adapté. Donc, quelques chiffres, mais je ne vais pas vous abreuver. Madame Charelle en a parlé précédemment. Au sein de la Fondation, sur le territoire, donc, nous avons 320 personnels de l'éducation nationale qui interviennent dans les cliniques, en grande partie donc, des enseignants, pour une prise en charge l'an passé de 3454 patients-élèves. L'idée, donc, je vous en parlais précédemment, c'est la reprise ou la poursuite, suivant les pathologies, de la scolarité, afin de préserver donc, l'avenir professionnel et de s'engager dans un projet individuel, mais également de contribuer afin de situer et être reconnu par ses pairs et ses parents. Nous avons souvent des parents qui sont très demandeurs également lors des admissions des patients. Et ensuite exigeants également sur le contenu de la scolarité, le déroulement de la scolarité. De réactiver ou de maintenir le processus d'apprentissage, de se confronter parfois à la réalité qui est un élément d'analyse pour le médical, et en particulier des fois pour le deuil des études. Les études sont souvent un alibi pour accepter les soins psychiatriques. Voilà, on ne rentre pas juste pour se faire soigner, mais le fait de pouvoir continuer les études ou de revenir dans un cursus scolaire permet souvent aux familles donc, d'accepter donc, les soins au sein de nos cliniques. Alors, au sein donc, de nos cliniques, alors normalement on avait des bulles, mais elles n'apparaissent pas très bien. Nous avons une partie classique. Donc, vous avez une partie UEA qui est au milieu à gauche, donc qui est de l'enseignement adapté. Sur 9 Moutier-en-Brie, nous avons par exemple 5 professeurs des écoles spécialisées, prises en charge du fin de cycle 3, donc fin du primaire, début du collège, et également tout ce qui est SECPA, ULIS, donc l'enseignement adapté. Ensuite, nous avons collège de la 6e à la 3e, du lycée général avec toutes les filières générales, des filières également technologiques, un lycée professionnel. Donc avec en particulier gestion administration et le tronc commun de toutes les filières professionnelles. Nous avons également des dispositifs post-bac, alors suivant les cliniques, avec la mise en place de tutorat, puisque nous ne pouvons pas avoir toutes les filières qui existent en France. Et nous avons également donc des dispositifs hors les murs. Madame Moreau en a parlé un petit peu ce matin, et c'est dans son rapport, donc les relais, vous en avez parlé également tout à l'heure. Donc les relais, où là, vraiment, on intervient au plus proche, et je vais détailler tout à l'heure ce qu'est le relais et le CESA. Et également des groupes spécifiques, et c'est ce qui fait notre spécificité par rapport au lycée et au collège traditionnel, où là, nous avons des groupes pour des prises en charge vraiment adaptées. Et je vais vous en détailler quelques-uns. Donc le groupe à pédagogie spécifique. Un GPS pour des élèves qui sont un petit peu perdus. Voilà. Ces groupes sont... C'est juste pour essayer de réattirer votre attention. Nous sommes sur un créneau, vous savez, l'attention des élèves. Et là, nous sommes sur un créneau un petit peu creux. Et je peux le comprendre. Donc là, c'est juste pour réattirer votre attention. Donc, ce groupe GPS. Alors, ce groupe, comme vous le voyez, donc, c'est réservé pour des élèves qui présentent une souffrance psychologique ou psychique ayant des répercussions importantes sur la scolarité. En général, ce sont des élèves qui ont connu une rupture scolaire significative, grande ou courte durée, ou un parcours scolaire vraiment chaotique. Chaque élève qui intervient donc dans ce groupe, qui vient dans ce groupe, donc, bénéficie d'un accueil individualisé et pourra suivre une scolarité au départ allégée entre 10 et 12 heures par semaine. L'objectif, ce n'est pas un examen, c'est juste permettre à l'élève de se remettre justement dans une situation d'élève en classe, collégien ou lycéen, de le réhabituer petit à petit aux exigences scolaires, surtout de le rassurer, voilà, de lui permettre de revenir sereinement dans un groupe classe et donc de reprendre confiance en lui. Dans ce groupe, donc, nous avons régulièrement des échanges avec les médecins. qui permettent donc de réfléchir et d'évaluer donc sa faculté à reprendre la scolarité. Donc c'est évalué toutes les semaines, de réfléchir à une orientation ou une réorientation, voire même de l'accompagner vers des structures spécialisées ou vers un autre projet de soins. Le DERPA. Alors là, je vais passer rapidement. Il ne me reste que 2 minutes, si je ne me trompe pas. Le temps passe vite. Donc le DERPA est un autre système adapté également dans nos cliniques. Le DERPA donc, se décline en trois pôles. Un pôle bilan, donc pour des élèves qui arrivent, on ne connaît plus leur niveau. On les prend dans un groupe, on évalue leur niveau. Un pôle remédiation, des élèves en grande difficulté ou en difficulté spécifique sur une discipline, nous allons les accompagner plus spécifiquement justement par un accueil individualisé. Et un pôle accueil donc pour des élèves qui, eux, sont dans un groupe scolaire, dans une classe normée, mais qui ne peuvent pas suivre dans ce groupe. Voilà, des élèves qui ne peuvent pas se retrouver dans un groupe. Donc là, on les sort provisoirement ou un petit peu plus longtemps. Et donc, on les prend en charge. Une articulation soins-études. Le travail se positionne bien en amont, donc lors de la préadmission. Lors de la préadmission, nous regardons les dossiers et d'ores et déjà, on regarde un petit peu est-ce que c'est un jeune qui ira vers un groupe GPS ou vers une classe normée. Tout ceci est discuté, bien sûr, avec la partie soins. Lors de l'admission, on affine ce diagnostic avec toujours un soignant de l'équipe et ensuite, on fait évoluer au fur et à mesure donc, la prise en charge de ce jeune, toujours en classe normée ou dans des classes spécifiques. J'accélère un petit peu. Si ensuite vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous avons des réunions hebdomadaires, plusieurs réunions hebdomadaires, ce que l'on appelle des réunions médico-pédagogiques, appelées CHO chez nous, commission d'harmonisation et d'orientation. Elles sont incontournables. Ce sont des temps d'échange entre l'équipe pédagogique et la partie médicale, où la partie pédagogique apporte le regard de l'élève lors de la semaine qui vient de s'écouler. À ce moment-là, le médecin ou l'équipe médicale peut apporter des compléments d'information, ce qui permet à la partie scolaire d'affiner et de revoir un petit peu le projet pédagogique, voire même le projet d'orientation. Les relais, donc c'est le repérage en amont. Les relais, vous pouvez le retrouver aussi dans le rapport Moreau-Brison. Les relais permettent une prise en charge courte, mais au plus proche des établissements scolaires. J'ai été chef d'établissement dans un collège. Des fois, on peut se retrouver dans des situations délicates et ne pas savoir quoi faire avec certains jeunes. Les relais sont justement des équipes pluridisciplinaires qui viennent dans les établissements et qui permettent pour 6 séances de prendre en charge des jeunes sur diverses difficultés. Donc, ce sont des entretiens qui sont conduits par des entretiens pédagogiques, psychologues, infirmières, enseignants de l'éducation nationale qui évaluent ensemble donc les difficultés ressenties par ces jeunes. L'idée ensuite, c'est soit ces 6 séances suffisent et on a réussi à répondre en partie au problème, soit ça ne suffit pas et auquel cas on fait un adressage vers le professionnel plus adapté. L'an dernier, c'était tout de même 1700 jeunes qui ont été reçus sur les différents relais de la Fondation. Et enfin, pour terminer, je déborde un tout petit peu, La sortie est envisagée dès l'admission du jeune. Voilà. On a un patient qui arrive, divers parcours, on regarde un petit peu comment on peut le prendre en charge pendant et on regarde aussi sa sortie, soit vers d'autres études, soit vers un autre parcours professionnel. Et là, par exemple, Bouffémont donc, a une formation UEROS donc, qui permet à des jeunes adultes de pouvoir se réinsérer dans la vie professionnelle. Voilà, j'ai essayé de faire court. Il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. J'espère ne pas vous avoir endormi. Merci.
C'est au tour de Nathalie Godard, qui est professeure des universités, praticien hospitalier à l'UFR, des sciences de la santé Simone Veil.
Je suis perturbée parce qu'il n'y a pas la même chose sur le visuel ici et ici. Alors, je vais prendre le visuel ici. Moi, je vais vous parler, je vais essayer de vous décrire un petit peu.
Est-ce que vous entendez correctement ?
Non.
Alors, vous approchez.
Je vais essayer de vous décrire le dispositif soins-études et les éléments qu'ont décrit mes collègues au travers du parcours patient et de son parcours de vie. L'idée, alors on a à votre disposition des rapports d'activité qu'on pourra vous laisser à la fin de l'exposé. L'idée, c'est que les troubles psychiatriques débutent pour plus des 3/4 avant l'âge de 18 ans. Il faut savoir que ces troubles qui commencent à cet âge-là sont souvent des troubles chroniques avec des conséquences graves, qu'ils vont occasionner souffrance psychique, comorbidité addictive et somatique, désinsertion sociale, surmortalité et un coût individuel, familial et sociétal considérable. Un des problèmes est que si cet âge de début est précoce, la mise en place de soins est souvent malheureusement tardive après plusieurs années d'évolution. Si on replace ces troubles dans le cadre du développement d'un individu, ces troubles surviennent bien souvent à la période de l'adolescence, qui est une période de maturation, séparation, individuation et autonomisation, qui fait passer l'enfant d'une position de dépendance, normalement, à la position d'adulte, d'indépendance et de maturité. Le trouble psychiatrique va venir perturber ce développement, entraîner des perturbations cérébrales, entraîner des perturbations sociales et mettre l'adolescent dans une situation qui va compromettre son insertion sociale, relationnelle à l'âge adulte. Ces difficultés qui existent donc à l'adolescence risquent de conduire l'individu à développer un handicap psychique. Ce handicap psychique, à l'âge adulte, va être extrêmement important si les troubles n'ont pas été pris en charge précocement. Le rapport Moreau-Brison, et je crois que vous en avez parlé ce matin, souligne l'importance de dépister précocement, de mieux identifier, de mieux orienter et de faciliter les interventions précoces, diversifier en termes d'intervenants et d'associer famille, enseignants, milieux associatifs et soins. Dans le cadre de la Fondation, nous avons la chance de bénéficier d'une pluralité des regards. Et moi, je vais vous donner là le regard, après que vous ayez eu le regard administratif, entre guillemets, le regard enseignant, je vais vous donner le regard soignant. Donc, je représente la position des paramédicaux et des médicaux de la Fondation dans cette action collective et coordonnée. Et nous avons la chance de disposer d'une culture partagée entre les personnels de l'éducation nationale et ceux du secteur de la santé. Et aussi de pouvoir disposer, grâce à cette pluralité, de liens pluriels à l'extérieur avec nos partenaires en amont et en aval de la prise en charge des patients. Et par ailleurs, comme nous sommes, comme le disait Madame Charelle, des équipes qui ont, même si nous avons une activité auprès des adolescents et des jeunes adultes, une tradition de pédopsychiatrie, nous impliquons le sujet et ses parents, même si le sujet est majeur. Nous offrons des soins que nous tentons d'adapter le plus possible aux besoins des jeunes. C'est ce que vous appelez, Monsieur Deyde, les mots me manquent, mais quelque chose qui est individualisé et qui est construit autour du sujet, et non pas du prêt-à-porter, merci, du sur-mesure. Et nous essayons, tant que faire se peut, d'être en complémentarité de l'offre de soins du territoire. Alors, quand un sujet entre dans un parcours de soins, il y entre à différents niveaux, à chacun de ces niveaux. Ça peut être lors d'un repérage, une prise en charge ambulatoire, ou peut-être des soins aigus, ou peut-être des soins au plus long cours en hospitalisation temps plein. L'adressage va se faire en amont de la Fondation par différents types d'interventions, soit le sujet lui-même ou sa famille et son milieu proche, à savoir les soins primaires, les associations d'usagers éventuellement, ou le collège, le lycée qui s'inquiètent et qui vont orienter dans la Fondation vers plutôt les relais ou les dispositifs des BAPU, ou des soignants qui déjà prennent en charge ces patients et vont donc orienter les patients vers des solutions de soins beaucoup plus intensifs. Ce que je vous propose, en fait, c'est de prendre la position soignant et de vous décrire ce parcours de soins au travers d'expériences et d'exemples cliniques de patients. À la sortie du dispositif de la Fondation, on retrouve ces mêmes partenariats et ces mêmes interventions qui, d'ailleurs, vont être présentes en filigrane pendant toute la prise en charge du patient, puisqu'on a des synthèses et des activités de coordination avec les praticiens qui suivent les patients à l'extérieur. Il y a toujours un suivi extérieur à la Fondation qui est un fil continu entre l'amont et l'aval. Et je vais essayer de vous montrer ça sur différents exemples. La mère d'Anne, 14 ans, appelle le relais sur les conseils du CPE du collège. Sa fille sèche les cours depuis plusieurs semaines et s'est battue avec une camarade, ce qui est tout à fait en rupture avec son comportement antérieur. C'était une bonne élève, tout marchait bien. Sa mère ne sait plus quoi faire. On la reçoit. Les relais ont différents fonctionnements, donc ça peut être intérieur au collège ou à l'extérieur. Elle est reçue sur 3 consultations par une équipe pluridisciplinaire. Et là, on apprend qu'il y a un divorce conflictuel, qu'elle ne voit plus son père par fidélité à sa mère, mais qu'elle lui est très attachée. Des entretiens familiaux impliquant le père sont proposés pour essayer de renouer les liens. Et puis, quand cette situation conflictuelle, ponctuelle est réglée, il y a une orientation vers le CMPP de proximité qui va prendre en charge cette jeune fille pour un accompagnement de psychothérapie. 6 mois plus tard, elle passe en seconde, ça va mieux. Léo, 16 ans, est adressé au BAPU Pascal pour une psychothérapie par le secteur qui le suit pour une dépression légère et qui va continuer à le suivre pour la gestion des médicaments en coordination avec le psychothérapeute. Pour la prise en charge plus aiguë, je vais parler de l'USIP, de l'unité de soins intensifs telle qu'elle peut exister à Sceaux. Alors, Arthur, 17 ans et demi, est adressé à l'USIP de Sceaux après 4 semaines d'hospitalisation dans un CAC, un centre d'accueil et de crise pour adultes de son secteur, pour un épisode psychotique aigu qui a été particulièrement bruyant, et afin de recevoir, dans un deuxième temps, des soins qui sont toujours aigus mais qui sont post-crise, dans une situation qui est plus adaptée à sa situation d'adolescent. Il va y rester 2 mois, il y aura un bilan scolaire, il sera réorienté vers son secteur et suivi en CMP. Jacques a 19 ans, à l'admission à un soin étude à la clinique Jacques Arnaud de Bouffémont, où il est adressé par un psychiatre libéral. Son profil développemental est très différent. C'est un garçon qui avait des troubles du spectre autistique, mais qui avait gardé une assez bonne insertion scolaire et qui va débuter brutalement une schizophrénie en rupture avec... Enfin, brutalement par des symptômes aigus, une schizophrénie avec délire et repli progressivement installés sur une année. Lorsqu'il arrive à Bouffémont, il y a un échec de reprise scolaire avec des difficultés anciennes qui se sont aggravées. Il y a un bilan qui est mis en place sur le plan scolaire et de l'insertion et un relais assez rapide vers un ESAT avec un suivi par son psychiatre libéral. Une autre jeune fille, Claude, a 16 ans quand elle est admise en soins études. Elle a un parcours très lourd, 5 ans d'hospitalisation dans 3 structures différentes. Elle a un arrêt de scolarité de 3 ans, puis une reprise à l'école à l'hôpital dans l'hospitalisation en CHU qui précède son admission à la Fondation. Elle va rester 3 ans à Dupré en soins études, passer son bac, faire une première année d'UIT, puis être relayée en résidence universitaire avec un suivi ambulatoire à Dupré, en parallèle un suivi sur le CHU qui continue à la suivre. Cette jeune fille a ensuite fait une école d'ingénieur, elle a fait un Erasmus au Canada, je continue à être en contact avec elle, elle va bien 8 ans après et vit avec son amie. L'exemple aussi d'un autre jeune homme, une jeune femme pardon, de 18 ans qui arrive à Jacques Arnaud dans une unité transdisciplinaire de psychiatrie et de MPR suite à une précipitation dans le métro. Elle a des lésions graves, une fracture du bassin et de la colonne vertébrale. Elle a besoin d'une double prise en charge. Elle a des antécédents très lourds, comme vous pouvez le voir. Elle va rester quelques mois à Bouffémont, sera réadressée au CHU adresseur. Elle passera au bout de quelques mois en hôpital de jour à Besançon à la Velotte. Et 10 ans plus tard, je peux vous donner de ses nouvelles, elle est aide-soignante, elle a 2 enfants, elle va bien. Tout ça pour témoigner que ces moments très lourds, très difficiles, très aigus à l'adolescence, s'ils sont pris en charge de manière intensive, eh bien c'est un investissement pour l'avenir. Par ailleurs, la Fondation a aussi à cœur d'avoir une pratique de formation initiale pour les internes, pour les paramédicaux, formation médicale, avec un séminaire pour les internes, avec une participation à la formation initiale des médecins. Et une formation continue, il y a un catalogue de formation continue en ligne sur notre site. Alors, quelle est la particularité des soins à la Fondation de France ? La particularité, je crois que vous l'avez compris, c'est qu'on aborde les sujets dans leur globalité, psychique, somatique, sociale et développementale. C'est une approche qui allie tradition et modernité, une approche institutionnelle qui permet le temps de la reconstruction, la reprise de la construction d'un projet de vie. C'est une approche intégrative pluridisciplinaire, éducation nationale, thérapie, psychotrope, tout ce qui sera nécessaire. Un parcours personnalisé en intensité et en durée et une ouverture et une collaboration avec l'amont et l'aval, c'est-à-dire l'extérieur, la vie extérieure. C'est un moment des soins qui est coordonné au parcours du patient et qui évite, on l'espère, les ruptures, ruptures de suivi et ruptures dans le parcours de vie. En conclusion, vous connaissez les éléments du rapport Moreau-Brison. J'espère que nous avons réussi à vous convaincre que la Fondation Santé des étudiants de France est un acteur territorial clé du parcours de soins des jeunes en situation de souffrance psychique et qu'il agit en complémentarité avec l'offre de soins existante. Et d'ailleurs, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous donner des éléments de collaboration.
Merci beaucoup. Ça, c'était... Un marathon, là, ou le Tour de France. Non, c'est plutôt un sprint, d'ailleurs. Alors, évidemment, c'est important d'être positif cet après-midi, mais c'est peut-être bien aussi d'avoir des chiffres qui, eux, sont moins positifs. Là, vous nous avez donné des exemples, évidemment, brillants. Est-ce qu'il y a aussi des échecs ? Et quel est le taux d'échec ?
Alors, les chiffres, j'en dispose pas, mais le jeune garçon qui est emmené en ESAT, je sais pas, c'est une réussite de parcours. Mais il y a des jeunes gens qui ne peuvent pas reprendre leurs études. Je pense qu'il y a les 2 volets. Je pense que vous pouvez en parler. C'est-à-dire que la prise en charge multidisciplinaire, elle peut soit amener à un parcours qui est un parcours constructif ou un parcours de réorientation dans le parcours scolaire.
Oui, voilà.
Ça marche, voilà. Monsieur Daïdé, ça marche.
Oui. Vous m'entendez ?
Oui, très bien.
D'accord. Oui, effectivement. Enfin, on essaie toujours de trouver une solution. Alors ensuite, la solution est adaptée au profil du jeune.
Merci d'essayer de parler un peu plus fort, par contre.
Oui, on essaie toujours d'adapter la solution en fonction du profil. Alors après, de là à dire que c'est un échec, pas forcément un échec. On fait en fonction du patient.
Alors, évidemment, comme on veut vous donner des exemples d'investissement pour l'avenir, je vous ai donné des éléments positifs. Il y a évidemment des échecs. Il y a des patients qui ne vont pas rester dans la filière. Il y a des patients pour qui c'est compliqué. Il y a des patients qui vont avoir des troubles plus graves que d'autres. Mais je crois que ce dont je voulais témoigner, c'est que même s'il y a des situations, je vous ai quand même donné des situations qui ont une intensité extrême. Mmh. D'accord ? Même dans ces situations-là, dont on pourrait penser que tout est perdu, parce que ces jeunes gens qui ont 4 ans d'hospitalisation, en l'occurrence, sont des jeunes gens que j'ai pris en charge de l'extérieur de la fondation, eh bien, on pourrait penser qu'ils sont partis dans un parcours de psychiatrie lourde à vie. Or, ce n'est pas le cas. Si les soins sont intensifs, on arrive à rétablir des choses.